Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Demain, Éric Coquerel sera peut-être, sans doute, élu président de la commission des finances. Éric Coquerel, député de la France insoumise, dont on connaît les accointances avec l'islamo-gauchisme, mais aussi les positions radicales sur le plan économique. Éric Coquerel sera sans doute élu face au candidat présenté par le Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy, qui vient de chez Debout la France et Nicolas Dupont-Aignan. Éric Coquerel sera sans doute élu parce qu'il se dit que les Républicains préféreront ne pas voter, parce que les Républicains s'abstiendront, parce que les Républicains refuseront de donner leur voix à un candidat du Rassemblement national. Ce jeudi, les Républicains laisseront passer un candidat de la France insoumise plutôt que voter pour son adversaire du Rassemblement national. Qu'en pensent leurs électeurs, à votre avis? Si demain Éric Coquerel est élu, les Républicains auront planté un nouveau clou dans ce cercueil qui les mène là où ils sont, précisément parce que leurs électeurs ont le sentiment qu'ils trahissent leur camp et leurs idées depuis tant d'années. Réponse dans 24 heures. Il est précisément 9h02, Audrey Berthaud.
Le procès des attentats du 13 novembre touche à sa fin. La Cour d'assises spéciale de Paris va rendre son verdict aujourd'hui après 10 mois d'audience. Elle délibère depuis lundi dans un lieu tenu secret et placé sous surveillance. On saura donc ce soir si Salah Abdeslam est condamné ou non à la perpétuité incompressible. Les chiffres du Covid continuent de grimper. Regardez, près de 148 000 nouveaux cas confirmés en 24 heures. Hier, 15 496 malades du Covid étaient hospitalisés. 898 étaient pris en charge dans des services de soins intensifs. Et enfin, 37 décès ont été recensés. L'État a-t-il été assez prévoyant sur le stock de masques chirurgicaux avant l'épidémie de Covid? La réponse est non pour le tribunal administratif de Paris. Il estime que le gouvernement a commis une faute. Avec près de 100 millions de masques, le stock n'était pas suffisant.
Merci Audrey. Il y a autant de cas de Covid d'ailleurs aujourd'hui qu'il y en avait durant la campagne présidentielle. Mais pour une raison mystérieuse, on n'en parlait pas durant la campagne présidentielle. On sera également avec Pierre-Henri Dumont tout à l'heure, qui est député des Républicains. Je lui demanderai demain pour qui il votera. Parce que ça va être très intéressant, ce vote pour la commission des finances. Charlotte Dornelas, que vous connaissez, bonjour. Bonjour également à Dominique Jamais, bonjour à Laurent Geoffrin et bonjour à Stéphane Manigold, que vous connaissez, qui a écrit ce livre « Vivre ses rêves afin de rêver sa vie ». On en parlera tout à l'heure, qui est un livre très émouvant. Mais je voulais, si vous en êtes d'accord, commencer cette émission par le discours du doyen de l'Assemblée nationale, José González Piednoir, né à Oran, qui était le doyen de l'Assemblée, qui à ce titre hier a pris la parole et il a évoqué sa terre natale. Et on s'aperçoit qu'il y a des mémoires qu'on n'a pas le droit d'évoquer en France, et la mémoire des Piednoirs notamment, qui vivent comme une souffrance le départ de l'Algérie. Ce qu'on peut comprendre, il faut toujours essayer de comprendre, mais manifestement comment dire, leur souffrance.
Pourquoi vous avez dit qu'on n'a pas le droit de l'évoquer?
Et parce qu'aujourd'hui...
J'ai souvent entendu évoquer.
Bah, aujourd'hui, j'ai l'impression que M. González...
Vous êtes toujours en train de vous victimiser, non?
Moi, je suis pas...
J'ai pas une liberté d'expression en France. Les associations de pieds noirs existent, elles ont un pignon sur rue, elles s'expriment en permanence.
J'ai eu le sentiment que M. González était une cible depuis hier.
On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout le monde. C'est pas...
Il a simplement rapporté
sa... Et ne pas avoir de critique en face de soi, c'est deux choses différentes.
Il a simplement rapporté sa souffrance. Et que c'est une partie de notre histoire, peut-être qu'il faut regarder sereinement. Écouter son discours, qui était très touchant. Extrêmement touchant à l'Assemblée nationale, parce que les plus jeunes ignorent parfois cette histoire où en 62, on a dit à des gens qui étaient sur un sol français, l'Algérie c'était la France, je vous le rappelle, c'était un département français, leurs parents étaient nés là.
Tout le monde n'avait pas les mêmes droits dans ce département français. N'oubliez pas de le dire.
Ça n'empêche pas la souffrance d'un petit garçon qui est là-bas.
Leurs parents étaient nés là.
C'est une chose différente, mais quand vous dites, je réponds au département français. Oui. C'était un département français où il y avait une inégalité juridique totale.
Mais vous avez parfaitement raison. Et c'est important de le dire. Et vous avez parfaitement raison. Et c'était une des causes.
Ça peut expliquer peut-être et vous avez pourquoi parfaitement raison. Tous ces pauvres Pinot ont été virés d'un
mais
coup.
Vous avez parfaitement raison de le souligner. Mais leurs parents étaient nés là, leurs grands-parents étaient nés là. Parfois, ils sont enterrés, même souvent enterrés. Et qu'effectivement, beaucoup ont vécu cette période comme un déchirement. Écoutez, M. Gonzalez, hier.
En ce lieu sacré de la représentation du peuple français, de l'expression de la volonté nationale, vous voir réunis côte à côte, par ordre alphabétique, au-delà de toutes nos divergences, est un symbole d'unité française. Ce symbole d'unité touche l'enfant d'une France d'ailleurs, que je suis, arraché à sa terre natale et drossé sur les côtes de Provençal par le vent de l'histoire en 1962. J'ai laissé là-bas une partie de ma France et beaucoup d'amis. Je suis un homme qui a vu son âme à jamais meurtrie. Excusez-moi, je pense à mes amis que j'ai laissés là-bas. Je suis un homme qui a vu son âme à jamais meurtrie par le sentiment d'abandon et les périodes de déchirement.
Louis Alliot, qui est maire de Perpignan, où il y a une forte communauté de pieds noirs, toujours vivante, pourra intervenir dans quelques instants. Monsieur Gonzalez a également, et c'est ce qui a été à l'origine peut-être de la polémique, a également parlé de l'OAS. Plus exactement, il a été interrogé sur l'organisation de l'armée secrète, l'OAS, qui effectivement avait été à l'origine de certains attentats terroristes et qui s'en était pris notamment au général de Gaulle.
La France a-t-elle commis des crimes en Algérie ?
Oula, vous me posez une question. Crimes en Algérie, je ne pense pas. Non, franchement, des crimes en Algérie, non, l'armée française, je ne pense pas. Alors peut-être maintenant, il faudra revoir l'histoire, mais je ne pense pas. Et encore moins un crime contre l'humanité. Je ne pense pas non plus. Et je crois que M. Macron a fait une erreur monumentale. Là, il a l'air de s'en rendre compte parce que quand vous dites aux jeunes ici, aux jeunes qui sont issus d'Afrique du Nord, d'Algérie, de Tunisie ou Maroc, vous leur dites que nous avons commis des crimes contre l'humanité, contre leurs parents. Donc, comment voulez-vous qu'ils se comportent avec nous ? Comment voulez-vous qu'ils nous respectent ? C'est pas possible. On leur donne de quoi alimenter leur colère contre nous.
Et à l'époque où vous avez adhéré au Front National, il y avait beaucoup d'anciens de l'OAS. Oui. Est-ce que l'OAS a commis des crimes, pour le coup ?
J'en sais rien, monsieur. Moi, la seule chose que je...
Vous savez pas ?
Vous étiez sur place et vous ne saviez pas grand-chose, finalement.
Et moi, je m'occupais surtout de mon petit bout de terre que j'avais là-bas, du côté de Tafraoui, et puis je ne m'occupais pas de savoir ce qui se passait. Oui, je voyais bien dans les journaux qu'il y avait des morts d'un côté et de l'autre, bien entendu, et des crimes. Non, franchement, je ne suis pas là pour juger si l'OAS a commis des crimes. Je sais même pas ce que c'était l'OAS, ou presque pas. Et moi, je me contentais d'applaudir le général de Gaulle quand il est arrivé en 58 en Algérie, qui nous a dit « Je vous ai compris, vive l'Algérie française, avec moi l'Algérie restera française ». Alors là, j'ai applaudi un moment. Après, j'ai compris que non, il fallait plus applaudir.
Bon, c'est vrai que pour rappeler « Vive l'Algérie française », ce qu'avait dit le général de Gaulle, il faut rappeler que les pieds noirs ont eu le sentiment d'être trahis par le général de Gaulle, ce qui est sans doute une
un peu factuel, quand même.
Réalité. Disons-le, même si le général de Gaulle s'était exprimé dès 1945-1946 pour une décolonisation progressive de la France, donc on connaissait quand même sa position. Avant de donner la parole peut-être à M. Alliot, je ne sais pas comment vous avez comment vous interprétez...
Pourquoi vous dites, je n'ai pas compris, il a été écouté avec beaucoup de respect, il a même été applaudi. Il n'a pas été sifflé.
Non, c'est...
Alors pourquoi vous dites que cette parole est écartée? C'était dans l'Assemblée
la
nationale.
La polémique est... Après, hein. C'est après la polémique.
Oui, quand on parle à l'Assemblée nationale, devant toute la représentation nationale, qu'on est écouté et applaudi pour une partie de la salle,
bien sûr,
et non pas hué, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas s'exprimer.
Il a j'ai jamais dit ça, j'ai dit que c'est difficile
vous avez dit,
d'ouvrir
on, c'est une mémoire
sereinement.
Qu'on ne peut pas évoquer, c'est mais il vient de le faire.
Excusez-moi.
Attendez, Charlotte répond après Dominique.
Non mais simplement, quand Emmanuel Macron lui-même, pour la première fois depuis cette histoire qui est quand même tragique individuellement, c'est récit. Moi j'ai toujours été frappée que ces discussions, vous rencontrez un pied noir, ça finit toujours en larmes. Des années et des années après, c'est incroyable. La souffrance de ces gens, ils sont arrivés en France, personne ne les a accueillis. Ils sont quand même arrivés sur le port de Marseille avec cette affiche « Allez vous réadapter ailleurs ». Inscrite par le maire de Marseille, les pieds noirs n'existaient pas. Vous disiez qu'il y avait une différence de traitement sur le sol algérien, ce qui était vrai. Il y avait une différence de traitement très claire entre les citoyens français et d'autres citoyens français qui étaient les pieds noirs quand ils sont revenus en France. Emmanuel Macron lui-même...
L'un ne justifie pas l'autre.
Et non, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Je suis simplement en train de vous dire que là, on vous parle de lui et vous nous parlez de ça.
Moi,
je
vous dis... Pourquoi il y a eu...
Dominique Jamais, à la question. Non, mais, et simplement, Emmanuel Macron, quand il s'adresse à eux pour la première fois, explique bien et leur dit « Je vous demande pardon parce que pendant des années, ce silence a pesé sur votre souffrance. » C'est bien que ce silence...
Dominique Jamais. S'il y a eu des crimes... De la conquête de l'Algérie jusqu'à la décolonisation, il y en a eu, c'est un fait. Ceux qui sont venus ensuite ne sont pas responsables des crimes éventuels de leurs arrière-grands-parents, de leurs grands-parents ou de leurs parents. Ça, c'est un premier point que l'on oublie. D'autre part, j'ai vu hier, Laurent Geoffrin, j'ai vu hier, peut-être vous aussi, sur une chaîne concurrente de la vôtre, un plateau, c'était LCI, un plateau où il y avait unanimité, pour s'indigner du fait que M. González a refusé de condamner l'OAS. C'était scandaleux, disait-on, à l'unisson. Or, l'OAS est effectivement une organisation factieuse, séditieuse, criminelle et terroriste, comme le FLN dans la véritable guerre civile qui a été la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que pour garder l'Algérie à la France, c'est la différence... Moi, je suis français. Pour garder l'Algérie à la France, l'OAS s'est conduite pendant peu de temps, comme le FLN s'est conduit pendant 8 ans. Et à l'heure actuelle, il y a en France, non pas une impossibilité en effet, mais une discrimination incroyable entre les survivants ou la mémoire de cette organisation qui s'est soulevée contre le pouvoir légitime pour que l'Algérie reste française, en communion avec 1 million de gens qui ont été chassés de leur ville natale, de leur terre natale. Au contraire, le FLN, lui, est plutôt vu, à juste raison, je le veux bien, malgré ses innombrables crimes, comme l'organisation séditieuse, factieuse, terroriste et criminelle, mais qui luttait pour la bonne cause. Et donc, lorsque un pied noir, chassé de sa terre natale à 19 ans, en rappelle le souvenir, il y a des gens qui osent s'indigner non pas de son exil et de son malheur, mais de ce qu'il a osé l'évoquer.
Louis Alliot est avec nous et je vous donnerai la parole après. Mais ce qui est vrai, et c'est intéressant ce que dit Dominique Jamais, parce que c'est la différence entre le politiquement correct qui influence tous les sujets parfois, et ce que vient de dire Dominique Jamais avec beaucoup de courage et de précision, qui est une réalité.
Ce qu'il a dit est une réalité. Il ne risque rien, je vous rassure.
Comment ?
Il ne risque rien.
Non, mais c'est une réalité. Ce qu'il dit est une réalité, mais comme le monde aujourd'hui est blanc ou noir,
je voudrais contester.
Non, j'aurais Louis Alliot, parce que après, je vous donne la parole.
National d'abord, d'accord.
On est parti là. Laurent Geoffrin, hier, c'est le doyen qui s'exprimait. Moi, j'ai écouté le doyen, et dans son discours, il a un tant soit peu compensé des plaies ouvertes depuis des décennies qui ne sont jamais
refermées. Louis Alliot, c'est intéressant parce que vous-même, à Perpignan, il y a une forte communauté à pied noir qui existe toujours. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment parfois d'une histoire à sens unique, peut-être.
Oui, mais je crois que Dominique Jamais a résumé la situation, mais on oublie de dire que les mêmes à gauche qui s'offusquent à l'Assemblée de ce témoignage poignant de notre doyen, qui a vécu, comme ma propre famille, l'abandon, la trahison, mais qui a eu des conséquences graves, parce que cet abandon et cette trahison, au-delà d'être arrachée à sa terre, elle a produit aussi un certain nombre de crimes contre l'humanité, et je pense évidemment aux harkis, je pense évidemment à tous les Français d'Algérie qui ont disparu. Vous savez qu'à Perpignan, on a le mur des disparus, où vous avez des milliers de personnes qu'on n'a jamais retrouvées et qui ont été assassinées, et on ne sait pas d'ailleurs où elles se trouvent aujourd'hui, parce que cette armée de libération nationale algérienne, d'obédience socialiste et communiste, il faut le dire, a commis là-bas des crimes contre l'humanité. Et c'est vrai qu'il y a deux poids, deux mesures. Et j'ajoute que cette même gauche, elle est à la fois capable aujourd'hui de dire tout ce qu'elle... en essayant de diaboliser le doyen en question, mais elle ne se rappelle pas que ce sont les mêmes socialistes qui, à l'Assemblée nationale en 82, ont voté une loi d'amnistie de tous les généraux qui avaient appartenu à l'OAS, les réintégrant dans leur grade et qualité pour mettre un terme à cette guerre civile française et qu'on aille un peu de l'avant. Tout ça, on l'oublie. On est aujourd'hui dans une espèce de théâtre où l'extrême gauche à l'Assemblée nationale tente de réveiller comme ça un certain nombre de combats ancien pour tout simplement tenter d'exister. Et on a vu les propos abjects de Madame Rousseau, qui, je dois dire, se singularise dans la débilité profonde depuis maintenant un certain nombre de mois.
Bon, le mot débilité profond, évidemment, il faut le récuser dans le débat démocratique et politique.
Non.
En tout cas, le modérateur, selon l'expression que j'utilise souvent, le récuse, puisque les idées doivent pouvoir être défendues et même combattues.
Vous pouvez défendre des idées débiles. Hein.
Et combattues, mais en revanche, ces propos vous appartiennent. Restez avec nous, parce que c'est intéressant, la position du Rassemblement national aujourd'hui, qui hier a permis l'élection au deuxième tour de Madame Braun-Pivet. Et peut-être que, paradoxalement, le Rassemblement national va davantage jouer la carte du Rassemblement de La République En Marche et de Renaissance que les Républicains. Comme si votre parti, Monsieur Alliot, était, j'allais dire, plus raisonnable ou responsable, on appelle ça comme on veut, que les Républicains. Donc c'est assez intéressant ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. Mais il est 9h15 et Audrey Berthaud nous rappelle nous rappelle les infos.
1000 hectares partis en fumée dans les Pyrénées-Orientales. Un violent incendie s'est déclenché hier soir. Les pompiers ont réussi à le fixer cette nuit. 300 habitants ont été évacués et 300 pompiers ont été mobilisés. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Les 27 approuvent la fin des moteurs thermiques en 2035 au profit de véhicules 100% électriques. Cela doit contribuer à atteindre les objectifs climatiques du continent, en particulier la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et puis du tennis, victoire de prestige pour Harmony Tan au premier tour de Wimbledon. La Française, 115e mondiale, a vaincu la septuple lauréate Serena Williams 7-5, 1-6, 7-6. Considérée comme l'une des plus grandes joueuses de l'histoire du tennis, elle tentait son retour un an après son dernier match officiel.
Je remercie vraiment Louis Alliot, qui est maire de Perpignan, mais très intéressant de décoder ce que va être le Rassemblement national, qui a envie manifestement de donner une image de lui peut-être plus responsable et pas d'opposition systématique. Mais Laurent Geoffrin, sur ce dernier sujet.
Oui, sur cette vision de la guerre. Ce qu'on oublie de dire, parce que on fustige à juste raison la duplicité du général de Gaulle. C'est vrai qu'il a joué sur un malentendu. Mais ce qu'il avait compris, c'est que le temps des colonies était terminé.
Je suis d'accord.
C'est ça qu'il avait compris.
Et donc il a été.
Excusez-moi, je voudrais expliquer mon truc en une minute. Quoi. Et donc, pourquoi c'était terminé? C'est parce que l'idée qu'un pays en domine un autre et inflige à ses populations une inégalité et juridique et économique massive n'était plus de saison. Ça ne marchait plus. Les gens ne voulaient plus. La communauté, les partis pieds-noirs, plus exactement. La communauté pieds-noirs, c'est trop large, ça serait un amalgame. Mais il y a beaucoup de partis pieds-noirs. À chaque fois qu'en France, un certain nombre de gens, notamment à gauche, mais pas seulement, ont voulu faire évoluer le statut, justement, des musulmans en Algérie, qui était quand même leur pays à l'origine, ils ont refusé. À chaque fois qu'il y a eu un projet Blum violet d'évolution du statut.
Non, vous avez raison.
Ensuite, quand on a voulu faire évoluer le statut en 45, oui d'accord, mais 45-46, non, miette. Et il y a eu la répression de Sétif, et ensuite le général, je ne sais plus comment il s'appelait, a dit vous en avez pour 10 ans, mais ça va recommencer.
Exactement. Et vous avez parfaitement.
C'est ça qu'il faut rappeler. En un mot, l'ordre colonial était injuste et intenable. C'est ça qui s'est passé.
Vous avez raison et que le général de Gaulle, c'était sa
position. Exactement la raison pour laquelle le général de Gaulle voulait partir.
Exactement.
Bon.
Il voulait pas que la France devienne algérienne.
En deux mots, parce qu'on ne va pas faire...
C'était quand même, et c'est ce qui explique l'ampleur et la durée du drame, c'était une colonie bien différente de nos autres colonies.
Bien sûr, c'était la France.
Puisque c'était une colonie de peuplement qui avait une masse de 1 million d'Européens et des millions d'Algériens qui ont pris et ont gardé et ont payé le parti de la France. Et puis d'autre part, il y a effectivement, là je crois que tout le monde sera d'accord, quelle qu'ait été la pensée profonde du général de Gaulle, qui était une pensée juste, un parjure abominable de la part de quelqu'un, le général lui-même, suscité et accompagné un putsch pour revenir au pouvoir, qui a promis l'Algérie française et qui a trahi sa promesse.
Alors, enfin, l'Assemblée...
Son discours, quand on l'analyse, était beaucoup plus ambigu. Quand on analyse bien le discours d'Alger, extrêmement ambigu.
L'Assemblée nationale hier, monsieur Alliot.
L'Algérie française,
une fois, justement.
L'Assemblée nationale hier, Yaël Braun-Pivet a été élu président de l'Assemblée nationale, réélu député des Yvelines le 19 juin dernier. La ministre des Outre-mer succède donc à Richard Ferrand. Lors des primaires internes, elle l'a remporté sur un autre ex-président de la commission... de la République en marche, qui était Roland Lescure. Je vous propose d'écouter l'annonce hier, qui était émouvante, forcément, pour elle.
Madame Yaël Braun-Pivet, 242 voix. Madame Yaël Braun-Pivet ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, je la proclame présidente de l'Assemblée nationale et je l'invite à prendre place au fauteuil présidentiel.
C'est la première fois qu'une femme est élue présidente de l'Assemblée nationale. Est-ce que la femme que vous êtes s'en réjouit, Charlotte Dornelas ?
Vous savez très bien que ça m'agace et je sais très bien que c'est pour ça que vous posez la question.
Ça mais, vous agace ? Qu'est-ce qui m'agace ?
Ce qui m'agace, c'est que tout revient systématiquement à ça. Et à la fin, on ne retient que ça. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour nous, franchement.
On peut aussi ouvrir le scope que lorsque nos enfants vont aller visiter l'Assemblée nationale, sur deux siècles de photos de président national, c'est la première fois que va figurer une femme en photo. Deux siècles, pas une femme.
Ça ne me rendra pas d'accord avec Mme Braun-Pivet.
C'est quand même une bonne chose. C'est un bon signal qui est envoyé.
Bon, Louis Alliot, Jean-Luc Mélenchon a tweeté « La présidence de La République En Marche élue avec l'abstention du Rassemblement National, un moment de honte est vite passé, point d'interrogation. Bienvenue dans le monde d'un pouvoir battu dans les urnes qui se maintient avec des petits arrangements d'amis. » Et je disais que j'ai l'impression de voir une nouvelle stratégie, parce que vous auriez pu ne pas vous abstenir, il y aurait eu un troisième tour. Honnêtement, ça n'aurait rien changé. Mais... on essaye de décoder ce que va être l'attitude du groupe Rassemblement National. Et j'ai l'impression que vous êtes en voie de vouloir ou vous responsabiliser ou vous respectabiliter, en tout cas qu'il y ait un gain de respectabilité, je ne sais pas si je l'exprime clairement. Et je voulais que vous décodiez simplement cette abstention du deuxième tour.
Écoutez, je crois que notre ami Chenu, qui se présentait au premier tour, a fait le plein de ses voix. Mais il est arrivé troisième. Il n'avait aucune chance d'être élu président de l'Assemblée nationale. Et dans tous les cas de figure, Mme Yaël Braun-Pivet aurait été élue au troisième tour. Et on a voulu tout simplement faire gagner du temps à tout le monde en respectant les règles de cette Assemblée. On n'est pas là pour bloquer le processus démocratique. On est là pour faire avancer un certain nombre de sujets et de sujets urgents. Donc plus vite on aura passé les procédures d'installation de l'Assemblée, et plus vite on pourra s'installer dans le débat pour parler du pouvoir d'achat, pour parler des retraites et pour parler de l'urgence. Voilà, aujourd'hui il y a une urgence sociale et il faut qu'on s'en occupe.
J'ai compris, Louis Alliot. Alors une petite séquence qui a fait réagir hier, Louis Boyard, qui est un jeune... député de la France Insoumise, a manifestement refusé de serrer la main de Philippe Ballard, qui est un député du Rassemblement National. On va voir la séquence. C'est une séquence qui a beaucoup tourné, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on la voit, cette séquence ? Voilà, nous la voyons. Donc Philippe Ballard, il est à droite, et M. Boyard, qui est une jeune personne de 21 ans, manifestement mal élevé, lui refuse la main qui lui tendait. Il était venu en chemise. Il était là parce que c'est un des plus jeunes députés de la République et qu'à ce titre, il était assesseur. Écoutez la réaction de Philippe Ballard.
Sur le moment, je n'ai pas compris. Je suis monté voter à la tribune. En votant, je lui dis, ah ben, c'est bien, l'urne est pleine. Et puis, je lui tends la main. Et là, en fait, rien. Je pense que c'était... un geste tout à fait assumé, un geste de défiance, un geste d'impolitesse, d'intolérance, de manque de respect. Voilà, comme certains députés de la France insoumise ont l'habitude de pratiquer. Ce que ça présage pour les futurs débats qui vont avoir lieu, je pense que ça présage des moments extrêmement tendus quand on a des députés de la France insoumise qui se comportent de cette façon.
La courtoisie républicaine, manifestement, n'est pas l'apanage de la France insoumise. Mais on va marquer une pause. Monsieur Alliot reste avec nous. Parce qu'il y a également le vote demain dont j'ai parlé. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Qui sera élu demain président de la commission des finances? Ça, ça va être très intéressant. Et la position des Républicains va être évidemment très intéressante. A tout de suite.
Tout seul.
Il est 9h30, la Minute Info.
Bruno Le Maire ne croit pas en la récession économique. Le ministre de l'économie était l'invité de Laurence Ferrari ce matin. Il affirme que la croissance française résiste malgré l'inflation. Par ailleurs, concernant les finances publiques, les chiffres sont tenus selon lui. Les surveillants de la prison de Saint-Quentin-Fallavier en Isère tirent la sonnette d'alarme. Des individus lancent des colis depuis l'extérieur de l'établissement pénitentiaire à destination des prisonniers. À l'intérieur de ces colis, des stupéfiants, de l'alcool ou encore des armes blanches. Depuis le 1er janvier, 3400 colis ont été projetés par-dessus les grillages. Enfin, c'est la journée nationale du ceviche au Pérou. Les habitants se sont réunis à Lima, la capitale, pour déguster ce plat typique. L'objectif est de mettre en lumière la gastronomie et la culture du pays. Pour ceux qui ne connaissent pas, le ceviche est un plat de poisson cru mariné avec du jus d'agrumes et des épices.
C'est la journée nationale du ceviche, mais au Pérou ou
au Pérou,
en France?
Oui. Ah non, oui, au Pérou.
Ah, c'est la journée nationale du au Pérou. Non, mais c'est bien, le ceviche. On donne ce qui est la journée nationale au Pérou. Vous aimez le ceviche? Moi, je sais pas ce que c'est.
Oui, c'est du poisson cru, en fait.
Poisson mariné.
En fait, il cuit avec un agrume ou des agrumes pour donner un peu de peps au poisson. Et le donner ce côté cuit. C'est du cru cuit.
Je rappelle que vos restaurants vont bien et que je vois beaucoup de restaurateurs qui font maintenant des travaux avec l'argent que vous avez eu gratuitement pendant tant d'années.
Non mais Pascal, faut pas me lancer à chaque fois sur ce sujet parce que
je vous avez été le
point une émission sur ce sujet.
Moi j'adore les restaurateurs vraiment et on les a aidés. Mais alors ils ont jamais été aussi riches que qu'ils ne le sont.
Mais justement,
ils font tous des travaux.
Justement,
ils ont des
Pascal,
ils ont
je suis venu vous faire une offre d'emploi. Puisqu'on gagne tellement bien notre vie en tant que patron.
Ils ont pris.
Faites patron, changez. Mais oui, mais moi je le dis à tous ceux qui ont ce discours. Mais c'était pas bien aussi, vous savez, ça
je les connais tous, ils font tous le quoi qu'il en coûte pour vous.
Non, mais le quoi qu'il en coûte, il nous coûte cher aujourd'hui. Attention, vous oubliez une chose, c'est
qu'il y a des gens qui ont touché de l'argent, vous vous rendez compte, il y a des gens qui ont touché de l'argent, des saisonniers. Entre octobre parfois et avril.
Vous avez raison de ne pas mélanger les restaurateurs et les saisonniers.
D'habitude, ils étaient à zéro de recettes. Et là, ils ont touché de l'argent sur un travail qu'ils ne faisaient pas.
C'est absolument fascinant. Pas tous les restaurateurs, cher Pascal.
À tous. Voilà, mais eux, ils disent, tiens, si le Covid pouvait revenir,
Non, je crois qu'aujourd'hui, jamais on a tous voulu travailler, on l'a dit à cette antenne régulièrement. Franchement, chef d'entreprise, il n'est pas là pour reprendre des aides ou des subventions.
Mais
quand on vous condamne et qu'on vous ferme, il est normal que l'État vous indemnise. C'est un principe de la Constitution, cher Pascal.
Je suis d'accord avec vous, mais demander.
Article 12, d'ailleurs.
Non, la difficulté, c'est que je connais d'autres commerçants. Commerçants, par exemple, d'habits ou de choses comme ça.
L'État leur a racheté 90% de leur stock.
On aurait bien aimé être traités comme les restaurateurs.
Ils ont été très bien traités, bon. 90% de leur stock.
Juste l'image de Louis Boyard qu'on a vue tout à l'heure. Revoyons-la, cette image de Louis Boyard, de la France Insoumise, qui a refusé de serrer la main à Philippe Ballard, parce qu'il y avait un petit tweet de Jordan Bardella, que je vous lis. Discours émouvant et rassembleur, élégance de tenue et d'âme de la part de José González, député Rassemblement National et doyen de l'Assemblée. Il nous a tous rendus fiers. Quel contraste avec le zadiste débraillé de LFI qui refuse de serrer la main de ses adversaires. C'est vrai que Jordan Bardella et Louis Boyard ont le même âge, ou à peu près le même âge, mais autre salle.
5 ans de différence.
Voilà, autre salle, autre ambiance, comme on dit. Alors, la commission de finances de l'Assemblée nationale, ça c'est très intéressant. C'est un peu technique, pardonnez-moi, pour les téléspectateurs, mais c'est vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce que le règlement de l'Assemblée nationale prévoit depuis 2007, que la présidence revienne à un député de l'opposition.
Qui se dit de l'opposition.
De l'opposition.
C'est pas majoritaire qui se
donc,
dit de l'opposition.
Donc, il doit être élu au cours d'un vote, à bulletin secret, ce sera demain, par les membres de la commission répartis en fonction de leur poids dans l'hémicycle. Par les membres de la commission. L'usage veut également que la majorité se retire au moment du vote. Très important ce que je vous dis. C'est donc au seul député de l'opposition qui revient de choisir leur président. Donc demain, il y aura un choix pour les Républicains.
qui sont dans l'opposition. Soit ils votent, je l'ai dit tout à l'heure, pour Jean-Philippe Tanguy, qui vient de chez Debout la France, et à ce moment-là, s'il vote pour lui, les Républicains, c'est lui qui est élu, puisqu'il y a les 89 voix également du Rassemblement National. Républicains plus Rassemblement National, c'est plus que la NUPES. Soit ils s'abstiennent, et c'est M. Coquerel qui est élu président de la Commission des Finances, sachant qu'elle est très importante, cette Commission des Finances. Donc, ça va être très intéressant, bien sûr, de voir comment ça se passe. Alors, j'ai demandé à M. Pierre-Henri Dumont, qui est député des Républicains, d'être avec nous du Pas-de-Calais. Il n'est pas là, Marine me dit, parce qu'on a un souci. Alors, on a un petit souci de son. Monsieur Alliot est là. Monsieur Alliot n'est plus là non plus. Bon, bah écoutez, heureusement que vous êtes resté avec nous. Parce qu'il n'y a plus que vous. Non, mais c'est intéressant. En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les électeurs des Républicains, je sais ce qu'ils veulent.
Entre les deux,
je sais ce qu'ils veulent. Mais comme toujours, les Républicains trahissent leurs électeurs. Ça fait 40 ans que ça dure. Ça fait 40 ans. Et après, ils s'étonnent d'être là où ils sont. Donc demain, ça va être intéressant de savoir pour qui les députés républicains...
Mais pourquoi vous dites qu'ils trahissent leurs électeurs? Ils ont refusé depuis toujours, en général, la plupart du temps, de s'allier avec l'extrême droite. Et ils l'ont toujours dit.
Mais c'est pas, ils ont refusé par peur de la presse.
Oui, mais justement, comme les choses évoluent, il y a les gens qui ne comprennent pas, puis il y a les gens qui ne veulent pas comprendre. De deux choses l'une... Ou bien les députés Rassemblement National et leur parti sont un parti qui reste en dehors de la République. Ce sont des députés illégaux, des députés qui sont moins députés que les autres.
Ils ont un désaccord fondamental avec eux.
Permettez. Oui, je vous. Bon, merci. Il faut faire barrage contre le Rassemblement National, car c'est un parti factieux et même fasciste. Bon. Ou bien ce sont des députés comme les autres, et il y a des attitudes qui sont anachroniques. Premier point. Et deuxième point, d'après toutes les études faites depuis les élections législatives, il apparaît qu'un certain nombre, un nombre important d'électeurs républicains préfèrent le Rassemblement national à la NUP. Et est-ce que ça peut se traduire ou doit se traduire au niveau de l'Assemblée ou pas? C'est la question. Et il y a à l'heure actuelle un certain nombre de gens qui me paraissent un peu anachroniques, qui continuent à traiter le Rassemblement national comme un parti hors République et ses députés comme des gens à qui on ne serre pas la main. C'est pas sérieux.
Pierre-Henri Dumont est avec nous puisqu'il est député des Républicains du Pas-de-Calais. Donc il va pouvoir nous exprimer la position du parti, si j'ose dire. En clair, vous préférez Éric Coquerel à Jean-Philippe Tanguy. Parce qu'après, on peut faire tout ce qu'on... tous les argumentaires qu'on veut. Mais au final, c'est ça. Vous préférez Coquerel à Jean-Philippe Tanguy.
Non, on préfère ni l'un ni l'autre. On préfère Véronique Louwagie, qui sera notre candidate à l'élection pour la présidence de la Commission.
Elle ne sera pas élue. Mais donc elle ne sera pas élue. Bah, on ne va pas tourner autour du pot. Si vous votez pour Tanguy, il est élu. Si vous vous abstenez, c'est Coquerel qui est élu. Pardon,
mais
ça se passe exactement. Le problème, il se pose exactement comme ça. Et tout le reste, c'est des arguties.
Pardon Pascal Praud, mais vous n'en savez absolument rien. Je vous rappelle le rapport des forces au sein de la Commission des Finances. Les Républicains ont 8 voix, les Insoumis ont 9 voix et le RN ont 11 voix. Donc vous comprenez bien que nous allons pousser au maximum notre candidate Véronique Louwagie parce que, un, c'est la plus compétente. Ça fait 3 mandats qu'elle est à la Commission des Finances. Elle est expert comptable, elle est commissaire aux comptes. Et à côté, on a choix entre deux apparatchiks. On a choix entre un apparatchik du Rassemblement National et un apparatchik de la France Insoumise. Et moi, je peux vous dire que Véronique Louwagie est particulièrement appréciée de la part de l'ensemble des collègues de la Commission des Finances. Et donc, évidemment, nous allons pousser au maximum ce choix.
Monsieur Dumont, vous faites de la politique, vous faites de la politique, et c'est pour ça que vous en êtes là aujourd'hui. C'est pour ça. Votre candidate n'a aucune chance. Arrêtons de dire n'importe quoi.
Vous n'en savez absolument rien, Pascal
Praud. Je le sais, puisque personne... Qui va voter pour elle, à part vous? Vous croyez que la NUPES va voter pour elle et le Rassemblement National va voter pour elle?
Pardon, mais il y a d'autres groupes...
Soyez sérieux. Donc oui, effectivement. Donc vous, devant vos électeurs,
vous l'obligez à voter pour le Front National s'il ne veut pas.
Ah ben voilà, c'est ça. Mais il a le droit, mais qu'il le dise. Mais qu'il le dise. Mais non, il ne le dit pas.
Entre les deux.
Il ne le dit pas. Il louvoie.
Je ne louvoie absolument pas.
Mais si vous louvoyez, mais
vous
louvoyez, vous ne voulez pas voter.
Aucun des deux.
Vous votez
donc pas du Front National.
Non, mais vous votez pour aucun des deux. C'est-à-dire qu'entre Coquerel et Tanguy, vous votez pour aucun des deux. Vous ne choisissez pas.
La mécanique
de vote.
mécanique de vote au sein de la commission des finances veut qu'il y ait plusieurs tours. Au premier et au deuxième tour, il faut être avec la majorité absolue pour être élu. Donc permettez-nous quand même de présenter notre candidate, d'autant plus que rien n'oblige l'intérieur du règlement de l'Assemblée nationale que la présidence de la commission des finances aille au groupe politique le plus nombreux. D'accord,
c'est un choix. Et au deuxième tour, qu'est-ce que vous allez faire ?
Pardon ?
Et au deuxième tour, qu'est-ce que vous allez faire ?
Alors, au deuxième tour, Véronique Louwagie sera toujours candidate. Normalement, il n'y a pas de raison, parce que c'est un système à plusieurs tours. Et donc, comme c'était hier, vous avez bien vu qu'Aline Jacquard s'est maintenue candidate lors du deuxième tour à l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale. Mais nous avons demandé pour que le scrutin soit le plus transparent possible. Nous avons demandé, nous, députés Les Républicains, à ce qu'il y ait, chose qu'il n'y a jamais, des isoloirs, des bulletins préimprimés, afin qu'il n'y ait aucune pression sur l'ensemble des commissaires aux lois pour qu'ils puissent faire leur choix de façon la plus équitable possible. Mais vous savez, ce n'est pas Les Républicains qui, aujourd'hui, doivent être considérés comme le juge de paix. La réalité, c'est quoi ? C'est que c'est Macron, c'est Ponce Pilate, Macron. Macron, c'est celui qui condamne la République.
C'est pas lui, en l'espèce, c'est pas lui, monsieur Dumont. En l'espèce, monsieur Dumont, en l'espèce, ce n'est pas lui qui vote. La majorité ne prendra pas part au scrutin. En l'espèce, c'est vous. On se retrouvera jeudi, peut-être, ou vendredi. Peut-être. Oui, c'est demain, peut-être jeudi. On verra qui est élu. On verra qui de nous avait la bonne analyse. Ce qui est certain, me semble-t-il, et c'est pas, c'est une analyse que je produis. Je pense que vos électeurs vous en voudront. Voilà, vos électeurs
Je pense que nos électeurs vous en voudront de ne pas pousser notre candidate.
Comment ?
Les électeurs, non,
mais pas du tout.
Vous êtes un militant de l'Union.
Mais je suis militant de rien du tout, je fais de l'analyse politique.
Oui. C'est extrêmement significatif qu'au moment où on pose une question à quelqu'un des Républicains pour savoir s'il est capable de choisir entre un transfuge de Debout la République qui est venu au Rassemblement National contre l'ANUPS, ce soit Laurent Geoffrin qui vient en renfort. Pardonnez-moi, la boucle est bouclée, terminée, tout le monde a compris.
Moi, je suis pour la droite républicaine, il faut qu'il y ait une droite en France.
Non, mais la droite républicaine, ça veut dire quoi ?
C'est plus possible.
Non, mais ça veut dire quoi, républicaine, en fait ? Ça veut dire quoi que Jean-Philippe Tanguy n'est pas républicain ?
Enfin, il vient de chez Debout la France.
Il n'est pas républicain, oui, c'est vrai.
Dominique Jamais. En fait. Et peut-être une question
sur quoi,
pour
vous.
Les républicains, une fois de plus, sont confrontés à un problème majeur qu'ils ont apparemment du mal à résoudre. Leurs électeurs sont plus hostiles, de toute évidence, dans leur immense majorité, à la NUPES qu'au Rassemblement national. Et ils s'apprêtent une fois de plus à louvoyer et à mécontenter leurs électeurs. Ils sont d'ailleurs dans une situation difficile, je le reconnais, parce que un certain nombre de leurs électeurs sont, comme M. Dumont, apparemment complètement allergiques au Rassemblement national. Donc c'est peut-être un parti qui est voué à l'éclatement, puis à la disparition. On pleurera. C'est pas...
Que vouliez-vous dire, Charlotte Dornelas ? Et après, je donne la parole à M. Dumont.
Vous voulez défendre le Rassemblement national ?
Non, je voulais vous poser la question de c'est quoi la droite républicaine, c'est-à-dire qui est républicain et qui ne l'est pas, sur quel point précis ?
Ah, surtout toute la politique d'immigration du Rassemblement national, c'est-à-dire pas républicain.
Qu'est-ce qui n'est pas républicain ?
Voilà,
ah bah si,
bien
si, c'est très
bien.
Alors, excusez-moi, Laurent Geoffrin. Non, mais parce qu'en fait... Oui, ah bah, allez-y. Excusez-moi, vous passez des campagnes et des campagnes à nous expliquer qui est républicain, qui ne l'est pas. C'est quand même important que vous précisiez. Vous ne le faites jamais, et à mon avis, vous allez avoir
du mal. Je l'ai fait 15 fois pendant la campagne. Le droit du sol. La préférence
nationale. Le droit du sol qui n'est pas républicain. La République n'a jamais... Ah, d'accord. Vous relirez des livres d'histoire, parce que ça a été... On a eu les deux.
Tradition républicaine.
Oui.
Ben, j'ai le droit d'interpréter ça comme je veux, et c'est une tradition
républicaine. Non-républicain, en fait, dans l'histoire.
Non, il y a eu les deux, mais...
Voilà, merci, donc ça, c'est pas non-républicain. Autre chose ?
Si, parce que au XXe siècle, les seuls qui ont remis en cause le droit du sol, c'est qui ? C'est le maréchal Pétain, qui n'était pas républicain.
Non, mais attendez...
Je maintiens mon point de vue, cette réforme-là n'est pas républicaine.
Pas de chance pour vous,
oui,
je
mais
sais vous
si vous me laissez pas parler, allez-y, parlez, je me tais.
Non, mais oui, je vais vous expliquer, parce que le sol qui a remis le droit du sol
j'ai pas besoin de vos explications, je les connais par cœur.
C'est la Révolution française qui a pas voulu du droit du sol. C'est la Révolution française qui a remis en cause le droit du sol, qui était la règle sous la monarchie.
Moi,
je me réfère
à la tradition française depuis la fin du XIXe siècle.
Non, mais bon, vous ne savez pas
une tradition républicaine.
Ce que je vous propose, c'est de pas entamer ce débat.
Oui, d'accord, mais faut pas affirmer des choses comme ça.
Non, mais ça peut être... Mais en revanche, Monsieur Dumont,
je considère que les 22 changements de la Constitution qui sont prévus par l'Assemblée nationale, comme ça a été mis en lumière dans la campagne, et qui a mené d'ailleurs à la défaite de Marine Le Pen, ce sont globalement un dispositif qui n'est pas conforme à l'esprit républicain. Voilà ce que je pense.
Monsieur Dumont, le scrutin sera regardé demain beaucoup d'observateurs. Pour tout vous dire, j'ai eu quand même pas mal de gens de votre parti qui ne sont pas sur votre ligne.
Et des gens importants. Enfin, pardon, mais ceux qui vont décider, ce sont les députés. Oui. Les commentateurs de salon qui nous disent ce qu'il faut faire, ils avaient une chose à faire, c'est se présenter aux élections et gagner les élections.
Je suis d'accord avec vous, mais monsieur Dumont, n'hésitez pas à continuer, clouer le cercueil. Non, vous êtes bien, clouez votre cercueil des Républicains. Allez-y, parce que visiblement, c'est ce que vous savez.
Véronique Louwagie, notre candidate.
Ils clouront leur cercueil de la même manière.
Non, mais notre candidate Véronique Louwagie, c'est le choix de la compétence. D'accord ?
Non, c'est aussi le choix des idées entre la République, entre le Rassemblement national et la France insoumise. Vous préférez la France insoumise. C'est votre choix. C'est votre choix.
Pascal Praud, ceux qui ne veulent pas de la France insoumise à la présidence de la Commission des finances ont un choix très clair à faire. C'est le choix de la compétence de Véronique Louwagie. Ceux qui ne veulent pas du Rassemblement national
vous
à la tête de la
vieux politique déjà.
Ont un choix
pas
très clair à faire, celui de Véronique Louwagie.
Voilà. C'est terrible. C'est terrible d'être déjà un vieux politique
que,
comme vous.
Ce que vous oubliez de dire, c'est que s'il se rallie au Front National, ils vont se rallier de la même manière.
Mais il se rallie pas. Il fait barrage. Il fait barrage contre la France insoumise. Il fait barrage.
La logique, c'est qu'il disparaisse de toute façon. La logique, c'est.
Mais j'imagine que le débat va exister. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de poser le débat. Je pense que le débat va exister. Merci en tout cas, monsieur Dumont. Parce
Merci
que c'était un peu vif, mais c'est le principe de notre émission. Et puis, je suis sûr que vous allez avoir des coups de fil ces prochaines minutes.
Je suis impatient.
Audrey Berthaud.
La saison des incendies débute en Californie. Lundi, un immense feu s'est déclaré à Novato. 54 hectares ont brûlé. Le feu a depuis été maîtrisé. L'été dernier, plus de 300 000 hectares avaient brûlé en Californie. La villa la plus chère du monde, à nouveau aux enchères à partir de demain. Aux deux premières ventes, la villa Aurora à Rome n'avait pas trouvé preneur. Cette propriété d'une famille antique de la noblesse romaine est mise à prix à 471 millions, dont 350 millions d'euros pour la seule fresque murale du Caravage. Et puis les Bleus éliminés en demi-finale de l'Euro. L'équipe de France U19, pourtant ultra favorite de la compétition, a été vaincue 1-2 contre Israël.
La villa Aurora.
C'est un restaurateur qui va la racheter.
460.
KPGE.
Bon, mais j'ai vu que l'Euromillion n'a pas été gagné cette nuit. Vous jouez à l'Euromillion ? Jamais ? Non, bah, non, vous faites. Mais enfin, c'est pas insultant comme question.
Non,
vraiment.
Je me sens pas insulté à chaque fois que vous parlez. Vous inquiétez
mais non,
pas.
Mais c'est, l'Euromillion, c'est rigolo. Ça, il y a 186 millions. Oui. Ça vous fait pas rêver, ça ?
Je ne crois pas aux loteries, je ne joue pas.
Vous ne crois, je ne crois pas.
Pascal, quand tu vas gagner, vous gagnerez pas. Une tête de canard.
Mais vous avez bien. Je pense que
je perdais tout le temps et que je gagnerais.
Mais là, vous avez raison.
Un calcul.
Il faut être complètement fou. Imaginez gagner. À une loterie, on a une probabilité, je crois, sur 135 millions de gagner les 7 numéros.
Il va falloir gagner du temps.
Oui,
non, mais il y a quand même un petit risque de gagner.
Il va falloir gagner du temps. Comme ça,
c'est ça le jeu. C'est ça le jeu.
Franchement, c'est le seul slogan publicitaire qui ne ment pas. 100% des gagnants.
Noémie Schulz est avec nous. Parce qu'on va parler de Jean-Marc. On va parler de Jean-Marc Reiser. Il y a eu une suspension de séance pour tout vous dire et Noémie nous a averti, on devait intervenir plus tard, mais comme cette suspension de séance a eu lieu il y a quelques instants, elle va pouvoir nous dire ce qui s'est passé ce matin. Bonjour Noémie, la parole aux proches de Sophie Le Tan ce matin.
Oui, absolument. Dans quelques minutes, le père, la mère, le frère et la sœur de Sophie Le Tan vont venir à tour de rôle à la barre parler de la victime dans cette affaire. Aujourd'hui, en quelque sorte, ce matin, la cour d'assises va faire connaissance avec cette jeune étudiante de 20 ans, tuée le jour de son anniversaire par Jean-Marc Reiser. C'est un moment extrêmement compliqué pour la famille. On l'avait raconté au premier jour d'audience. La mère de Sophie Le Tan a fait un malaise. Elle était au bord de l'évanouissement quand elle a vu Jean-Marc Reiser entrer dans le box. On n'était donc pas sûr ce matin qu'elle aurait le courage, cette mère, de venir aujourd'hui à la barre. Mais elle est là, elle est bien présente pour venir parler de sa fille. Il y a quelques minutes, une enquêtrice de personnalité est venue faire le portrait de Sophie à travers tous les témoignages qu'elle a pu recueillir de ses proches. Et elle a décrit une étudiante volontaire, déterminée, qui travaillait la nuit comme réceptionniste dans un hôtel pour payer ses études, qui était un pilier de sa famille, qui aidait notamment ses parents d'origine vietnamienne dans leurs démarches administratives, qui était fusionnelle avec sa sœur. Elle s'appelait 3-4 fois par jour, qui était méfiante, prudente quand elle ne connaissait pas les gens, parfois un peu naïve, mais qui n'aurait pas accordé sa confiance à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Voilà ce qu'a dit cette enquêtrice de personnalité. Et donc, d'ici quelques minutes, les témoignages des proches de Sophie qui sont attendus.
Je vous propose d'écouter peut-être le témoignage du cousin de Sophie Le Tan que vous avez écoutée hier, Noé.
Je peux vous dire qu'aujourd'hui, elle est détruite, la famille. Elle est complètement détruite. Même si l'amour s'est renforcé avec les Philippe et Sylvie, ce n'est plus la même chose. Et la tristesse, la souffrance est permanente. Non seulement les émotions sont là parce qu'il va falloir extérioriser tout ce qu'ils ont, mais il ne faut pas croire que par la suite, ce sera voilà, réparé, et puis on peut tourner la page, etc. Ce ne sera plus jamais pareil, mais il faudra avancer.
Et je vous propose d'écouter également une ex-compagne de M. Reiser qui a interrogé Noémie Schulz.
Tout d'un coup, il pétait un câble. On ne sait pas pourquoi, mais il pétait un câble. Et ça pouvait être pour n'importe quoi. Le repas ne lui plaisait pas et c'était trop salé, c'était pas assez salé, ou alors c'était trop chaud, pas assez chaud, ou je sais pas. Et puis il attrapait l'assiette et puis boum, il vous l'envoyait dans la pièce. De préférence vers vous. Après, elle atterrissait dans la pièce parce que si vous l'évitiez, quoi. Qu'est-ce que vous faites quand c'est comme ça? Toutes les femmes battues pourront vous le dire. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On fait profit de bas. Si vous lui dites, c'est fini, lui, le mot fini ne connaît pas. Vous n'avez qu'une solution, c'est d'attendre qu'il foute le camp de lui-même. Il faut toujours qu'il dirige tout. Et si une relation devait s'éteindre, c'était lui qui devait l'éteindre. Il ment de toute façon tout le temps, parce que puis il vous manipule. Il était capable d'être persuasif avec un tas de personnes, pourquoi pas avec ses compagnes, quoi.
Témoignage des anciennes compagnes qui ont été glaçants, Noémie Schulz hier.
Oui, absolument terrible, notamment deux femmes, des quinquagénaires hein, qui ont connu Jean-Marc Reiser il y a une trentaine d'années et qui, toutes les deux, ont raconté la furie dans laquelle il est entré quand elles ont voulu le quitter. L'une d'elles dit qu'il l'a fait monter dans sa voiture, il l'emmène en forêt. Je sens que la situation est très grave, je suis terrorisée, il me projette au sol, me donne des coups de pied dans le ventre. J'avais peur qu'il m'étrangle. Elle dit avoir eu peur pendant les 10 ans qui ont suivi et se sentir une miraculée. Hein. Moi, j'ai eu de la chance, il n'avait pas contenu sa violence, je serais morte. Une autre aussi est venue décrire cette pluie de coups qui s'est abattue sur elle alors qu'elle aussi tentait de se séparer de lui. C'était des témoignages vraiment très à charge, très accablants pour Jean-Marc Reiser hier à l'audience.
Merci Noémie. On marque une pause. Yves Roucault a écrit L'obscurantisme vert. Ce livre, ah oui, vous pouvez sourire, personne, vous ne verrez cet auteur nulle part ailleurs que chez nous, parce que nous aimons donner la parole à ceux qui ne pensent pas forcément comme le politiquement correct. Yves Roucault est philosophe, professeur d'université, il a été membre de 4 cabinets ministériels, il est auteur de nombreux ouvrages, et c'est très intéressant de lire cela, de frotter sa cervelle, comme on dit, avec des pensées qui ne sont pas toujours les plus répandues dans l'espace médiatique. La pause, à tout de suite. Exceptionnellement, nous ne sommes pas en retard. Il est 10h pile, la Minute Info.
La Russie est une menace directe pour la sécurité des pays de l'OTAN. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'Alliance à l'ouverture du sommet de l'OTAN à Madrid. C'est un sommet historique face à la crise sécuritaire la plus sérieuse depuis la Seconde Guerre mondiale, a-t-il déclaré. En Ukraine, 20 morts et 59 blessés après le bombardement d'un centre commercial à Kremenchuk. La Russie persiste à dire qu'elle ne visait pas ce centre commercial. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a suggéré au Conseil de sécurité de l'ONU d'envoyer une commission d'enquête pour prouver que le centre commercial a bien été détruit par un missile russe. Et puis Sting, le légendaire bassiste et chanteur du groupe Police, a donné hier soir un concert devant le château de Chambord. Plus de 20 000 personnes étaient présentes.
Les contaminations du Covid-19 sont reparties à la hausse depuis 3 semaines. Hier, il y avait 147 000 nouveaux cas. Je disais que c'est le même nombre de cas que pendant la campagne présidentielle, mais on n'en parlait jamais. C'est étonnant.
Bah, qu'on continue à plus en parler.
C'est la faute de la presse?
Non, je ne sais pas.
On ne cherche pas la faute de savoir la faute de qui c'est à la base. Simplement, on a tous compris maintenant que ça pouvait être une variable d'ajustement
de notre quotidien.
Au moment où on en a besoin. Ça, au moins, on a compris, c'est bien.
Ah oui, ça j'ai pas intégré. Mais développer cette idée que je trouve intéressante.
Ah non, mais je dis la même chose que vous dans le fond. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des moments où la maladie circule exactement de la même manière, oui. Et tout le monde vit avec. Et apparemment, les pouvoirs publics s'en satisfont très bien. Et puis d'autres moments, on va nous expliquer qu'il va falloir remettre un masque. En tout cas, peut-être qu'un jour, on va nous remettre le masque et peut-être le pass et je sais pas quoi, alors que la situation est la même. Le pouvoir politique se comporte différemment. Donc peut-être qu'ils n'ont pas que en tête de vouloir sauver des vies et que les gens qui ne sont pas d'accord avec leurs mesures sont des monstres qui veulent que les gens meurent.
Oui, pas de doute. Un certain nombre d'autorités ont, pendant les campagnes présidentielles et législatives, mis l'étouffoir là-dessus. Mais c'est en train de se terminer. Et donc on va avoir de nouveau beaucoup de médecins sur vos plateaux et beaucoup de commentaires.
Oui, mais ils ont changé d'avis.
Oui, les médecins ont changé tout court.
Ils ont tout incroyable. Hein. Tous les médecins, je suis surpris, ils ont arrêté.
Mais là, pour l'instant,
ils ont leur passion entre temps.
Oui, non, mais c'est très intéressant. Je trouve qu'ils sont plus du tout alarmistes comme ils l'étaient pour l'instant.
Mais la dangerosité du virus est plus faible, c'est pour ça.
Mais on a une information lacunaire, parce qu'une chose est le nombre de cas, une chose est les cas graves et le nombre de morts. Et là, pour l'instant, on est un peu dans le vague, dans le flou.
En revanche, l'État français a été jugé fautif du manque de masques. La justice administrative a estimé que l'État français avait commis une faute en ne veillant pas à maintenir des stocks suffisants de masques avant l'épidémie. On va voir le sujet, parce que c'est pourquoi il est aussi intéressant le sujet, c'est d'écouter ce que certains ont dit il y a de cela 2 ans maintenant, Reda et Mrabi. Écoutez, c'est vraiment très intéressant.
La justice française a tranché. L'État est jugé fautif de ne pas avoir stocké suffisamment de masques pour lutter contre le Covid-19. C'est ce qu'a déclaré le tribunal administratif de Paris.
La faute principale qui est reprochée, c'est une gestion comptable des stocks de masques, puisque ceux-ci n'ont pas été renouvelés à la suite des commandes liées à l'épidémie de grippe H1N1 où les masques n'ont finalement pas servi.
Par ailleurs, le tribunal pointe du doigt certaines déclarations qui ont eu pour effet de dissuader la population d'avoir recours à des masques, notamment au moment du premier confinement.
Nous continuons tous à voir beaucoup de personnes dans les rues avec des masques. On peut comprendre leur inquiétude dans cette situation totalement inédite, mais c'est vraiment, je le rappelle, une denrée rare et totalement inutile pour toute personne dans la rue.
Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade.
Cette décision fait suite à une trentaine de plaintes déposées par d'anciens malades du Covid-19. Au début de l'épidémie, la France ne possédait que 100 millions d'unités, pas assez pour lutter efficacement contre le virus.
Le directeur général de la santé qui, il y a 2 ans, dit « le masque est inutile dans la rue ». C'est très intéressant.
Mais rendez-le nous.
Mais je pense qu'il a raison ce jour-là.
Oui.
Je pense qu'il a raison en fait. Et que.
Oui, comme ça, oui.
Non, mais il a raison.
Dans une foule, non.
Non, mais il a raison.
Pardonnez-moi, ils l'ont rendu obligatoire.
Ils l'ont rendu obligatoire, mais il a raison. Et en fait, le masque a été.
Je ne suis pas le porte-parole du gouvernement.
Le masque a été un outil, disons-le, parce que à ce niveau d'expertise de santé, il sait de quoi il parle. Il sait que le masque ne sert à rien, en fait. À rien du tout. Mais on nous l'a imposé quand même. On nous l'a imposé alors que ça ne sert à rien du tout. Au moins dans la rue, qu'on me dise dans un des transports en commun, bon, pourquoi pas. Mais il y a eu cette volonté-là. Franchement, cette période qu'on a vécue, ben vous souriez parce que vous êtes d'accord avec moi.
Non.
Ce qui nous inquiète. Non,
parce qu'à vous écouter, il ne fallait pas prendre de précautions.
Mais je ne dis pas ça non plus. Je dis qu'il fallait protéger, que les gens fragiles se protègent.
Oui, ils ont peut-être pris trop de précautions.
Nous, aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, ce n'est pas le Covid. On a un peu de recul. On voit bien 150 000 cas. Toujours trop de décès, mais beaucoup moins. Nous, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la flambée de l'énergie, le gaz. Et j'écoute avec beaucoup d'attention l'interview de Bruno Le Maire il n'y a pas très longtemps, et j'observe également ce qui se passe en Allemagne. L'Allemagne commence à parler de restrictions et de rationalisation du gaz. Je vous rappelle que dans les restaurants, y compris les cantines scolaires, nous cuisinons au gaz. Et donc ça, c'est une vraie préoccupation. Hier, à la suite de ces déclarations, j'ai appelé tous mes confrères à vite contacter leur cuisiniste et à vite commenter des pianos électriques et pas au gaz. Et pour ma part, il m'en reste un à changer, et je peux vous dire que ça va être un vrai sujet à la rentrée, parce que c'est une vraie problématique pour l'économie française.
Pour terminer sur le Covid, Alizée Cornet, c'est pas n'importe qui, c'est la première tenniswoman française. Écoutez ce qu'elle a dit hier à Wimbledon en conférence de presse. C'est très curieux, parce que je pensais qu'il y en aurait ce matin dans l'équipe, que les gens en parleraient. Alors ça, c'est passé absolument
très bien. Vous avez deux solutions dans ce genre de situation. Soit vous faites monter la polémique, soit vous dites, il y a plein de gens qui vont se retrouver dans ce qu'elle dit, et donc...
Ah mais il y a plein de gens qui vont se retrouver.
Ah, évidemment, moi j'ai écouté, j'ai dit, ça fait plaisir.
Mais bien sûr, ce qu'elle dit, elle a complètement raison. Mais comme elle dit ça, elle prend quand même des risques vis-à-vis de la fédération, vis-à-vis du ministère des Sports, mais le ministère des Sports n'a pas réagi non plus. Vous voyez,
ce serait quand même énorme de réagir, alors que concrètement, c'est ce qu'ils nous demandent de faire, par ailleurs. Parce que...
Écoutez ce qu'elle a dit, Alizée Cornet, avec beaucoup de courage.
tout le monde a eu le Covid sans savoir à un moment donné. Bah, quand on voit que Krejcikova se retire en disant j'ai le Covid et que tout le vestiaire est malade, à un moment donné, on a peut-être tout de suite la grippe ou le truc, mais c'est que voilà, on a trois symptômes, on a la gorge qui gratte et puis on joue et puis tout va bien et ça va. Oui, effectivement, à Roland, je pense qu'il y a eu quelques cas et que ça c'est un accord tacite entre nous. On va pas s'auto-tester comme ça pour se mettre dans la merde. Enfin, à un moment donné, il faut être logique, quoi.
C'est leur gain, c'est leur revenu, et nous c'est pareil. Hein.
Et c'était un accord tacite, dit-elle. Hein. Il y a dû avoir quelques cas et ça devait être un accord tacite entre nous. J'ai dit qu'il n'y avait pas un mot dans l'équipe et Arthur Muriot me dit que ce matin il y a une interview dans l'équipe. Alors elle a quand même rétro-pédalé un peu, Alizée Cornet, parce qu'il y a des problèmes un peu juridiques qui peuvent se poser pour elle. J'ai dit que je soupçonnais quelques cas de Covid pendant Roland-Garros sans avoir aucune preuve. C'était avant tout pour souligner que le virus faisait désormais partie de nos vies et qu'il fallait vivre avec, point barre. Voilà. Une attitude intelligente.
Oui, enfin, ce qui est rassurant dans cette affaire, c'est que le tribunal administratif n'a mis que 3 ans à rendre une décision. C'est bien mieux que pour l'attentat du Bataclan, où on a mis que 7 ans hein, entre l'attentat et le procès.
Juste un mot, vivre ses rêves afin de rêver
de sa vie.
De sa vie, Stéphane Manigold. C'est le livre que vous avez écrit. Et je me souviens, vous étiez. Moi, je ne connaissais pas votre histoire. Et un jour, vous êtes venu sur ce plateau et. Je ne sais pas comment, on s'est mis à parler de votre enfance. Et cette enfance, elle est très particulière. Vous êtes un petit garçon qui naît dans une ZUP de Mulhouse. Votre mère qui abandonne la fratrie, votre père qui est incapable de résorber des dettes accumulées. C'est une enfance très compliquée. Et j'avais vu votre émotion. Je me souviens combien les téléspectateurs avaient été également touchés par votre histoire. Parce que vous êtes ce qu'on appelle un résilient. C'est-à-dire que vous avez tout contre vous. Pour ne pas vous en sortir, et par un miracle, on ne sait pas si c'est votre nature, la chance, les rencontres, vous en sortez.
C'était une période, lorsque je sors de cette émission, l'éditeur du Cherche Midi me contacte et il me dit « j'ai compris maintenant pourquoi, d'où vient cette énergie lorsque j'ai affronté mon assureur pour établir en fait, les parts d'exploitation ». Mais au-delà de ça, j'ai accepté d'écrire ce livre parce que je veux remercier toutes celles et ceux qui sont en capacité de changer la vie de quelqu'un juste par une simple attention, un simple mot, un simple geste, un regard. Et moi, ma vie, elle est là-dedans. Et toutes ces personnes qui ont changé ma vie par des attentions, sans me donner d'argent, sans rien de tout ça, juste en constatant que j'existe, y compris dans la détresse dans laquelle je me trouvais à ce moment-là, foyer de la DAS, les oubliés de la République. On n'en parle pas assez de ces enfants. Les seules fois où on en parle, c'est dans l'actualité, lorsqu'il y a des crimes, lorsqu'il y a des délits, des viols. Voilà, on dit « Ah, c'est un enfant de la DAS ». Et pour moi, ça a été une souffrance terrible que d'entendre systématiquement cela. Alors je voulais, au travers de ce livre, donner un coup de projecteur à ces enfants qui souffrent. Réellement.
Et les gens qui étaient avec vous à la DAS, vous les revoyez ? Vous savez comment ils ont évolué ?
Pour beaucoup, dans l'actualité. C'est, y a pas de place.
Mais c'est une fatalité.
Sans exemplarité, un enfant ne peut pas grandir. Tous ceux qui réussissent, vous tous autour de la table, à un moment, c'est l'exemplarité qui fait que vous réussissez. Si vous n'avez pas cette exemplarité, vous êtes condamné. Vous ne pouvez pas avancer dans la vie. Et cette exemplarité, modestement, j'ai voulu la...
Oui, mais vous, quel a été votre exemple ? Qu'est-ce qui fait que vous, ça a marché ?
Tous ces gens qui se trouvent dans ce livre, tous ces gens qui m'ont tendu la main, vous autour de ce plan. Mais si, Pascal, c'est oui, la vérité.
Vous, quand
c'est...
on vous a connu, vous étiez déjà là. Le chemin était fait.
Oui, mais vous savez, il y a une dureté aussi qui se crée lorsque
on. Parce que vous dites tendre la main, mais vous arrivez de rien. Donc il y a bien un moment, il faut que des banquiers vous aident. Il y a bien un moment que faut investir.
Savez, Pascal, j'ai
vous arrivez à Paris à quel âge ?
Ça fait 31 ans que je travaille. J'ai travaillé à l'âge de 11 ans.
Votre pro. À 11 ans. La première fois que vous...
Oui. Quand mes copains allaient sur les manèges, moi je ramassais les tickets, j'étais payé 50 francs par jour. C'était pour moi un bonheur, c'était un échappatoire à ce que je vivais. Parce que juste avant, j'avais volé pour manger, pour nourrir ma famille.
brique de lait qui vole un œuf, vole un bœuf. Et donc, je ne voulais pas rentrer dans cette délinquance, dans ce fatalisme. Et donc, je suis allé travailler en été.
J'entends bien, mais il y a un moment, il y a un déclic quand même. Et l'aspect financier, il est important. Surtout dans, vous êtes chef d'entreprise.
Et je suis pas dépensier.
Votre première affaire, vous avez quel âge ?
J'ai commencé avec de l'immobilier puisque j'ai encaissé on a été expulsé dans le logement social. Alors quand vous êtes expulsé dans le logement social, enfin déjà c'est pas terrible. Nous, on arrive dans un quartier qui est classé parmi les 10 quartiers les plus dangereux en matière de délinquance juvénile d'Europe. Vous n'avez pas de chauffage collectif. Hein. Vous êtes là, vous êtes dans une espèce de jungle continue. Et puis, vous arrivez à avoir cette espèce d'instinct de survie où, au fond, vous avancez et vous n'avez pas envie de vous faire retenir par tout ce qui pourrait vous retenir, vous détruire. Et donc, voilà, j'ai avancé.
Et depuis que vous avez écrit ce livre, j'imagine qu'il y a beaucoup de témoignages.
Oui, le témoignage pour moi le plus émouvant que j'ai eu, c'est Pierre Arditi. C'est la préface qui m'a fait. J'en étais ému aux larmes quand j'ai lu cette préface. C'est quelqu'un que j'ai rencontré parce que j'ai fait du théâtre. J'ai mille vies parce que je déteste dormir. Je suis un angoissé. Non, mais vraiment, la vie est belle et je me dis, tiens, je veux y aller. Et du reste, ce titre, je l'ai trouvé assez simplement puisque dans une autre vie, j'étais dans l'automobile. Je devais envoyer des vœux à François-Henri Pinault et Pierre Arditi. Et je lui dis, mais qu'est-ce que je peux souhaiter à ces gens-là? Ils ont tout. Je peux leur souhaiter la santé, c'est une banalité absolue. Je peux leur souhaiter la réussite, ils l'ont déjà. Et donc je lui dis, je vais leur souhaiter de vivre leurs rêves afin de rêver de leur vie. C'est-à-dire que chaque soir, ce que je souhaite au fond à tout le monde, c'est que chaque soir quand vous vous couchez, vous rêvez de votre vie en vous disant, tiens, c'était bien ce que j'ai fait. Et vous vous endormez apaisé.
Vos parents sont toujours de ce monde?
Oui. J'ai rompu avec ma mère. Vous savez, quand vous avez 7 ans et que vous dévalez 10 étages pieds nus en plein hiver avec votre frère et que votre mère est en train de partir, un enfant, il n'a rien demandé quand il naît. Il n'a rien demandé. On lui doit tout. La protection, l'amour, on lui doit tout. Et quand votre mère vous abandonne, c'est impardonnable. Et je ne lui ai jamais pardonné, je ne lui pardonnerai jamais. Je suis un produit fini aujourd'hui. Je n'ai plus besoin d'elle.
Vous pensez qu'elle nous écoute? Vous n'avez jamais eu aucun contact?
Si, elle m'a appelé plusieurs fois, elle me laisse des messages, mais c'est terminé. J'ai tourné la page. Et j'ai tourné la page parce que elle a fait du mal, elle a détruit... Je ne parle pas de mes frères et sœurs parce que chacun a l'interprétation de ce que nous avons vécu. Mon petit frère était tout petit, il avait 2 ans, donc voilà. Moi, j'avais 7 ans, donc j'ai tout vécu, j'ai tous ces souvenirs et voilà. Et vraiment, vous savez, j'ai envoyé 14 propositions à tous les élus de la République, tous, tous bords confondus, au président de la République, à tout le gouvernement. Et dans ces 14 propositions, j'espère qu'un jour elles seront mises en place. Elles ne coûtent rien. 0 euro d'argent public. Par contre, ça va réellement changer la vie de nos gamins. Et j'espère que si Brigitte Macron, à qui j'ai fait part de ces propositions, qui a priori est sensible sur ces sujets, j'espère que ces propositions-là, elle les mettra en place. Redistribution, par exemple, de l'ARS, l'allocation rentrée scolaire. Il faut arrêter de la donner aux familles. Il faut la donner aux écoles. L'enfant et l'impôt qui est collecté, il doit être fait pour que l'enfant aille à l'école, qu'il puisse se nourrir, qu'il puisse avoir un repas sain par jour, qu'il puisse avoir une trousse. Et l'école ne peut pas être le théâtre de la violence et des marques où les gens se font racketter. L'éducation, si c'est les parents et qu'on va à l'école pour un enseignement, on arrête d'appeler éducation nationale. On appelle enseignement national. L'éducation, c'est les parents. L'école, c'est un lieu formidable d'enseignement. Donc voilà, il y a 14 propositions, je ne vais pas toutes les citer ici. J'espère qu'un jour, elles seront mises en place dans ce pays et qu'elles changeront, parce que j'en suis persuadé, la vie de nos gamins. En tout cas, merci Pascal pour ces enfants.
Parce que vraiment, je crois que tout le monde...
Enfants de la DAS, c'est les oubliés de la République. Ils n'ont pas de parents qui votent. Donc les politiques ne s'y intéressent pas. Ils ne vont pas les voir. Allez les voir. Quand il y a eu le sujet de l'adoption, où on veut adopter un enfant, moi, c'est pas mon sujet, quelle que soit la sexualité des gens, c'est pas mon sujet. Ce qu'un enfant veut, c'est de l'amour, qu'on s'occupe de lui. Et les délais sont très longs pour adopter. Et bien dans cette période, on devrait rendre obligatoire le parrainage et le marrainage républicain. Et qu'on s'occupe de ces gamins.
On ne peut pas, l'expérience ne se transmet pas dans la vie. On ne peut pas savoir ce qu'est la vie que vous avez eue quand on a eu la chance d'avoir une maman, un papa qui était là le soir.
Chacun peut changer la vie de l'autre. Chacun peut le faire. Juste avec un mot, une attention. Ça ne coûte rien de changer la vie de quelqu'un.
Merci vraiment.
La vie est belle, Pascal. Vraiment.
Vraiment,
elle est belle.
La vie est belle, bien sûr. Stéphane Manigault. Alors, la préface de Pierre Arditi est vraiment sublime. En plus, bien à toi, petit frère, etc. Donc, c'est difficile d'enchaîner. Mais on avait dit qu'on recevrait Yves Roucaute. Stéphane, vous allez rester avec nous. Vous allez laisser votre siège, mais vous restez jusqu'au bout avec nous quand même, jusqu'à 10h30 qu'on vous retrouve pour évoquer ça. Et Yves Roucaute va vous prendre, va venir à votre place, parce que je voulais qu'on fasse rapidement ce livre, l'obscurantisme vert, parce que je disais, moi j'ai découvert le livre de Monsieur Roucaute, il va venir en lisant le Figaro. Ce qui est terrible, c'est que maintenant chaque journal met en avant certains auteurs, et puis le pluralisme qu'on aimerait retrouver dans la presse française n'existe pas forcément. Bon, l'obscurantisme vert. Bonjour Monsieur Roucaute. Alors d'abord, vous êtes philosophe, vous êtes professeur d'université, vous avez été membre de 4 cabinets ministériels. Alors votre bouquin, évidemment, c'est absolument terrible, puisqu'il dit l'exact contraire des informations qu'on a d'habitude. Bon, par exemple, le pétrole, dites-vous. Le pétrole, sur cette planète, il existe à gogo. Je pensais qu'il allait s'arrêter. Qu'il ne soit pas aujourd'hui exploitable ne signifie pas qu'il soit épuisé ni qu'il ne soit pas exploitable demain. En 90, les réserves de pétrole étaient de 1 milliard de barils. En 2010, de 1 600 milliards de barils. En 2020, de 1 730 milliards de barils. Un miracle ? Non, seulement la découverte de nouveaux moyens pour exploiter les ressources.
Oui, en fait, ce que j'essaye de montrer dans ce livre, c'est que la créativité humaine est quelque chose d'absolument merveilleux. On a l'idée, dans ce pays, je pense, que l'énergie est finie, que la planète s'épuise, que on va la faire exploser, qu'elle va brûler, etc., etc. Et moi, ce que j'essaie de démontrer, à travers l'étude minutieuse de 4,55 milliards d'années de vie de la planète, puis l'étude minutieuse de l'humanité elle-même depuis la naissance des premiers hominines il y a 7 millions d'années, ce que j'essaie de démontrer, c'est que justement, ce que je crois avoir réussi à démontrer, c'est que si l'humanité, par exemple, a survécu, c'est parce qu'elle a une créativité inouïe. Je rappelle, moi je suis un écologiste, en fait. Je veux bien que les choses soient claires. Moi je suis un écologiste, d'abord parce que écologie, ça vient d'oikos, qui veut dire la maison, et non pas la planète, et que la maison, c'est ce qui nous protège de la planète, ce qui nous protège de la nature, du vent, du froid, du chaud, des attaques animales, tout ce qu'on veut. Donc je suis un écologiste. Comme je suis un écologiste, je suis anti-climato-sceptique. Le climato-scepticisme, c'est ce qui est développé aujourd'hui par cette armada de gens qui vendent la planète qu'il faudrait sauver, qui va brûler, etc. Parce qu'ils nient le climat depuis 4,55 milliards d'années.
Ils ne sont pas climato-sceptiques, j'ai pas compris.
Ils sont climato-sceptiques parce qu'ils nient le climat.
Renversement rhétorique.
Ils nient la réalité du climat. Oui, moi, je pense que le climat, c'est très important. Moi, je pense...
Il a été plus rapide.
Sauf que c'est le
bon, donc le climato.
Je viens à votre aide parce que j'ai pas compris. Alors.
Oui, parce que la vérité.
Il se moque de.
Mais oui, bien sûr. Je reprends à contre-pied cette affaire parce que je trouve ça absolument ahurissant qu'on nous explique qu'il a jamais fait aussi chaud qu'aujourd'hui, alors que depuis 4,55 milliards d'années, il a quasiment hors glaciation toujours fait plus chaud qu'aujourd'hui. Donc si vous voulez.
Ah bon.
Bien sûr. Je donne.
Par exemple, vous dites là, selon les experts en culpabilisation humaine et les instituts gourmands de subventions pour catastrophes annoncées, comme Météo France, 2020 serait la pire des saisons cycloniques depuis 1851. Nos doctes précisent qu'ils ne donnent pas de chiffres au-delà, car les statistiques scientifiques n'existaient pas avant 1851. Pchit, effacer 4,5 milliards d'années de la Terre, abolir physique, chimie, géologie, paléontologie, archéologie. Nous vivrions le pire régime climatique jamais vu sur Terre, car 2020 serait pire que 2019, elle-même pire que 2018, elle-même pire que 2017, et ainsi de suite. De record en record, vous dites.
Oui, en plus, je démontre que, justement, je reprends les 40 dernières années de cyclone, enfin, toutes les affaires, et je démontre que c'est une proposition en déjà fausse, même sur 30 ans. Mais ce qui m'intéresse plus encore, je veux dire, moi, je veux bien qu'on invente la taxe carbone et tout ce qu'on veut, mais enfin, les dinosaures, ils n'ont pas inventé la taxe carbone et ils ont bien fait, parce qu'ils vivaient pendant 170 millions d'années, ils ont vécu environ à 30 degrés et ils broutaient l'herbe, enfin, ils broutaient la végétation au Groenland.
Sur toute la Terre, il y avait 30 degrés.
Sur toute la Terre. Ah ben non, il y avait des endroits. Sur le Groenland, il faisait en moyenne 15 degrés. Je rappelle que la moyenne aujourd'hui du globe entier est de 15 degrés centigrades. Il faisait à peu près 15 degrés Celsius à l'époque des dinosaures au Groenland. Et les mers étaient au-dessus de 25 degrés.
Il y a une augmentation de la température liée au CO2.
Alors, donc c'est ça qui est très important. C'est que d'abord, première chose, la première chose à dire, c'est que moi, ce qui m'intéresse, ce sont les faits scientifiques. Je suis un épistémologue d'abord, donc un philosophe des sciences. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les faits scientifiques. Oui. Les faits scientifiques, c'est que depuis 461 millions d'années, naissance des premiers crustacés, si vous voulez, le fait scientifique, c'est que, eh bien, hors glaciation, il a toujours fait plus chaud qu'aujourd'hui. C'est un fait scientifique. Pourquoi ? Pour multiples raisons qui tiennent à des vrais phénomènes climatiques important, majeur. Je ne dis pas que l'humanité ne produit pas des effets. Je dis les vrais phénomènes climatiques majeurs, c'est le soleil, ses rayonnements, la lune, ce qui se passe dans le noyau terrestre, ce qui se passe dans le manteau, les volcans, etc. etc. Donc ça, je le démontre. Je vous donne un seul exemple. Parce que moi, j'entends le GIEC, je regarde.
Le GIEC.
Le GIEC, voilà. Je suis toujours étonné de voir qu'on prend leurs projections au sérieux. En 2007, ils annonçaient, par exemple, que d'ici 2020, il y aurait une sorte de catastrophe, qu'on souffrirait de la soif, que jusqu'à 200 millions...
Ils ont annoncé ça en 2007 ?
Oui, il faut lire leur rapport. En 2007, 200 millions de personnes souffriraient de soif, toute l'agriculture fluviale chuterait de 50%, l'Asie connaîtrait une mortalité, etc., etc. Voilà. Dans les faits, qu'est-ce qui se passe ? Dans les faits. Première chose, je donne quelques exemples. Il y a 4200 ans, on a un réchauffement tel que la civilisation d'Akkad, qui est l'héritière de Sumer, qui a inventé l'écriture, est complètement rasée par la sécheresse, par la chaleur. La civilisation de l'Indus, en même temps, de Lungzhu, la sixième dynastie.
4200 ans, ce qui est hier, quoi. 4200 ans, c'est hier.
Oui, la sixième dynastie. Non, mais on peut aller avancer un peu plus loin. En 950, les Vikings.
Le CO2, vous ne m'avez pas répondu.
Ah, oui, mais je vais vous répondre.
Ah, oui, mais c'est long.
Je vais répondre parce que c'est important, parce qu'il n'y a pas d'industrie carbonée, vous voyez ce que je veux dire. Oui. En 950, les Vikings installent deux colonies au Groenland. On cultive les vignes dans le nord de l'Europe. Il n'y a pas de voiture.
Il y a des vignes au Groenland
Bien sûr, en 950, jusqu'à la Renaissance ou à la suite. Parce que vous voyez, le problème, c'est les variations climatiques, évidemment, constantes de la planète. Jusqu'à la Renaissance,
Laurent Geoffrin est affligé.
Jusqu'à la Renaissance, où là, il y a un fort refroidissement.
Laurent Geoffrin est affligé.
Non, mais j'ai l'impression de revenir au temps des dinosaures. Sur la question du réchauffement climatique, tout ce que vous dites sur le climat, il y a très longtemps, oui, tout le monde le sait.
150, c'est pas il y a très longtemps.
C'est dans tous les...
150, c'est pas très longtemps.
Enfin bon, il y a quand même un certain temps.
Non, il n'y a pas trop longtemps.
La révolution industrielle. Le GIEC dit c'est la révolution industrielle.
En train de parler. La discussion sur le réchauffement climatique a eu lieu il y a 20 ans. Ouais, elle a été tranchée. Maintenant, la plupart des organismes, 99% des organismes scientifiques du monde entier, privés et publics, considèrent qu'il y a un réchauffement, que c'est d'origine humaine et que c'est dangereux.
Non. On considère qu'il y a un réchauffement. Oui, c'est pas vrai. Non. La plupart. Ça, c'est faux.
Même s'ils sont
les instituts. Non. Les instituts de météorologie disent pas du tout ça. Pas plus que les travaux scientifiques. Je suis désolé. Il y a effectivement 12 000 personnes.
Et le GIEC alors.
Alors,
GIEC, c'est quoi ?
C'est pas un truc scientifique. Je viens de vous démontrer à l'instant. Oui. Il suffit de reprendre leur projection de 2007 pour voir que c'est faux. Excusez-moi, les marxistes faisaient le même coup. Avec des milliers de savants, ils vous disaient « Ah, voilà, le capitalisme va s'effondrer, etc. Oui. » Un seul exemple. Non, mais pour aller vite. Le GIEC nous dit la révolution industrielle parce qu'en fait, le vrai ennemi de ces gens-là, c'est quoi ? C'est le mode de production productiviste, consumériste, capitaliste, pour aller vite, etc.
C'est que vous pensez qu'ils sont verts à l'extérieur et rouges à l'intérieur.
Voilà. Moi, je les appelle parfois les petits bonhommes verts. Mais ce qui est
intéressant... Ils avancent masqués pour détruire le modèle capitaliste.
Bien sûr. D'ailleurs, pour répondre à Laurent Geoffrin...
Tous les gouvernements qui ont signé l'accord de la COP21 sont des marxistes.
Mais c'est un bon argument. Pourquoi tout le monde se range Pourquoi tout le monde se range Pourquoi Laurent Fabius tout le monde se range à ces arguments. C'est un bon
parce qu'il y a une pression, il y a un terrorisme intellectuel monstrueux. Je vous donne un exemple.
Non seulement toute l'histoire de l'humanité prouve que le réchauffement n'est pas extraordinaire, 15 degrés, c'est rien du tout par rapport à je ne dis pas que l'humanité n'est pas responsable en partie. Je dis simplement que c'est rien du tout par rapport à l'histoire de la planète et même l'histoire proche. Je fais, on va en parler. Un argument massif, c'est que le GIEC produit des graphes colorés superbes, disant que depuis la révolution industrielle, ça ne cesse de monter. Or, c'est faux. Par exemple, et ça, c'est ce qu'avait démontré Emmanuel Leroy-Ladurie, c'est ce que disent les instituts de météorologie, eh bien, nous avons eu, effectivement, au début de la révolution industrielle, un réchauffement, puis ensuite, au début du XIXe siècle, un refroidissement avec une montée extraordinaire des glaciers qui s'est arrêtée en 1850. Et depuis 1850, il y a une augmentation, c'est vrai, de la température.
Et donc là, pour vous, ce qu'on appelle dérèglement climatique, par exemple, lorsque l'autre jour, il y a une canicule pour la première fois, ça arrivé si tôt, tout ça.
Il suffit de reprendre.
En écoutant M. Comte, oui. Moi, je pense simplement une chose, c'est toujours intéressant d'entendre des voix diverses et des gens qui vous font réfléchir. Premier point. Et deuxième point, je serai court, on ne surestimera jamais assez l'ignorance de l'histoire par les scientifiques et par les politiques. De l'histoire courte, du court terme, ça veut rien.
Oui, sur le CO2, vous me posez une question.
CO2. Ce que disait le roi Ladurie sur le petit âge glaciaire. Bien sûr, Emmanuel, etc.
C'est absolument. Et en plus, il le fait région par région, année par année. Donc, si vous voulez, il faut quand même voir les choses en face. On a affaire à une vague obscurantiste sans précédent pour essayer de casser et de détruire, à mon avis, le fondement des démocraties libérales. Parce que je vous rappelle que les histoires de CO2, moi, je ne suis pas contre. Simplement, d'abord, ce n'est pas le principal gaz à effet de serre. Il faut savoir que le principal gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. De 60 à 80%. D'accord.
Ces arguments
Deuxième chose, depuis 461 millions d'années, ce n'est pas rien, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu... Avant la dernière glaciation, dont on pourrait reparler, c'est-à-dire il y a 100 000 ans, il y a toujours eu 8 à 17 fois plus de CO2 sur la Terre hors glaciation, et même durant certaines glaciations. Donc si vous voulez, moi je veux bien qu'on raconte que le CO2 a atteint un niveau jamais vu. Alors je précise que le CO2 est à... Aujourd'hui, alors on nous parle en ppm, parce que du coup c'est effrayant, il y a 415 ppm, ça va peut-être monter à 420 ppm. Personne ne comprend très bien ce que c'est. Ça veut dire partie par million. Ça veut dire 0,0415% dans l'air. Il faut savoir que... Vous savez pas, parce que... En dessous de 0,7% de ppm... En dessous de 0,7%...
Mais monsieur Jouzel, par exemple, monsieur Jouzel, il est sérieux?
Pardon?
Monsieur Jouzel... Il ne dit pas ce que vous dites.
Non, mais je dis, ce que je veux, c'est qu'on dise la vérité. Dise la vérité. Qu'on arrête. Vous savez, les marxistes, ils avaient des milliers de scientifiques exprimaient le point de vue marxiste. Aujourd'hui, on a des dizaines de milliers de scientifiques. Le GIEC, comment le président du GIEC actuel, alors on y va si vous voulez, celui qui prétend qu'il n'a jamais fait aussi chaud qu'aujourd'hui, sans doute parce qu'il est myope et qu'il ne connaît pas l'histoire de la planète. Ce président du GIEC, il était nommé comment? Il était nommé parce que c'est le frère du premier ministre sud-coréen. Il a fait des études de lettres. Il a fait en 1988 une vague. Il a fait en 88 un vague mémoire disant qu'il allait
les rapports.
Qui a réchauffé en jamais vu
et qui allait
amener la famine.
Monsieur Roucoute,
je suis obligé de. Ça aurait été faux de hasard.
Je réitère, c'est pas lui qui a écrit les rapports.
Hélas, moi j'aime. On aime donner un.
Moi ce que j'aime, c'est les faits.
Bon, je suis d'accord. Yves Roucoute, l'obscurantisme vert. Je renvoie à ceux qui veulent lire ce livre. Vous serez invité nulle part. Donc comme ça, c'est bien. Vous serez pas. Non, mais c'est important de le dire. Vous serez invité nulle part. Donc seul Le Figaro a fait une page quand même. Le Figaro a fait une page sur votre bouquin. C'est pas rien. Bon, et c'est vrai que c'est très intéressant. Et je m'étonne simplement que c'est ça qui me titille toujours. Pourquoi est-ce qu'on ne l'invite pas? Pourquoi est-ce qu'on ne le met pas à discuter avec quelqu'un qui pense pas comme lui? Bon.
Est-ce qu'on ne discute plus les
La Minute Info.
Un important incendie s'est déclaré dans le 16e arrondissement de Paris. C'est un feu d'appartement rue de Longchamp. À 10h, il était toujours en phase active. 100 pompiers sont sur place. Le bilan provisoire est de 3 blessés graves et de 9 blessés légers.
Le président russe Vladimir Poutine n'aurait pas déclenché la guerre en Ukraine s'il avait été une femme. C'est ce qu'a estimé le Premier ministre britannique Boris Johnson en jugeant souhaitable qu'il y ait plus de femmes au pouvoir. Le déclenchement de cette guerre par la Russie est un exemple parfait de toxicité masculine, a-t-il encore dit. Et puis après 89 ans de bons et loyaux services, l'horloge parlante ne répondra plus le 1er juillet prochain, c'est-à-dire vendredi. Dans les années 90, le 36-99 traitait encore plusieurs millions d'appels par an avant de perdre peu à peu ses fidèles pour ne plus représenter qu'une dizaine de milliers d'appels à l'année.
Au dernier top, il sera 10h32. Bon, vous avez été affligé par l'info Boris Johnson.
Boris Johnson qui parle de toxicité masculine pour parler de la guerre.
Bon. C'est terminé. Jean-Luc Lombard était à la réalisation, Grégory était au son. Merci à Mélanie qui était à la vision. Merci à Marine Lançon et retour d'Arthur Muriau. Merci vraiment. C'était une émission passionnante, intéressante, émouvante. Jean-Marc Morandini dans une seconde à ce soir.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.